La communication présentée aujourd'hui fait partie de ma thèse doctorale qui a comme titre « Les communautés de Castille dans le royaume de Dieu, prophétie, hétérogénéité religieuse et réforme ecclésiastique ». Elle sera finie pendant cette année. D'abord, bon, avant de parler sur l'Église, les villes et la salut, je voudrais faire un bref récit de sa révolte afin de proposer un contexte plus précis pour l'exposé postérieur. Bon, la révolte des communautés de Castille, ou comuneros, est probablement la révolte la plus importante de l'Espagne moderne. C'est une guerre de plusieurs des villes contre le gouvernement nommé par Charles de Gaulle, après Charles Quint, pendant son absence de Castille. Elle a provoqué des conflits dans la campagne aussi, mais c'est surtout un phénomène urbain. Charles de Gaulle devient roi du royaume espagnol en janvier 1516, après la mort de Ferdinand le catholique. Sa mère, Jeanne la Folle, a été déclarée incapable de gouverner par son père Ferdinand. Au lieu de gouverner en tant que régent, Charles se proclame roi en vie de sa mère. Il arrive à Castille avec sa cour flamande, occupant les postes principaux de l'administration de la monarchie. Dans un contexte de mécontentement croissant, Charles Ier abandonne la péninsule ibérique pour devenir empereur du Saint-Empire en 1519. Les villes de Castille réagissent à son départ avec l'établissement d'un gouvernement propre en rejetant celui nommé par le roi et dirigé par son ancien précepteur, Adrien d'Utrecht. Dès l'été de 1520 jusqu'à la bataille de Vichalard, le 23 avril 1521, la guerre entre les comuneros et les royalistes se développe. Après Vichalard, la ville de Tolède est un espace de résistance comunera jusqu'à février 1522. Les villes comuneras sont Toledo, Segovia, Valladolid, Salamanca, Ávila, Madrid, entre autres. Cependant, leur situation pendant la révolte est changeable. Quelques-uns sont comuneras dans un premier moment et après passent au camp de roi. Elle exige une transformation du gouvernement en parlant de toutes les institutions de la monarchie. L'administration, les services, l'assignation des charges, la politique matrimoniale de la monarchie, le rôle des villes, l'Église et presque tous les aspects de la société sont sujets de différents écrits et opinions des comuneros. Même si la révolte est commandée par un secteur des élites des villes, divers mouvements de révolte populaire sont parallèles à leur action. Si c'est très bien. Bref, les comunidades de Castille sont qualifiées comme une révolution bourgeoise. Bourgeoise, en révolution moderne, en mouvement démocratique, en révolte anti-absolutiste, une réaction féodale, entre des autres noms. Quelques sont des principaux historiens qui ont écrit sur sa révolte sont José Antonio Maraval, Josep Paré, José Ignacio Gutiérrez Nieto, Stephen Hallixer, Pablo Sánchez León y Máximo Diego Armando. Les approches en base dans l'histoire sociale, institutionnelle et politique sont les plus importantes. Et en plus, les comunidades ont été très célèbres dans la mémoire historique construite par les traditions libérales et républicaines du 19e et 20e siècle. Bon, c'est en italien, mais bon, une petite carte sur les villes qui sont involucrées dans la révolte, si quelqu'un veut voir. Et c'est plus. Surtout les centres de Castille et en général le sud de l'Andalousie, c'est les bastions royalistes et le nord aussi, Burgos en particulier, et le nord du royaume. C'est le livre de Máximo Díaz Hernando que c'est en italien. C'est ça fou. Es culpa de. Ah, c'est vrai. Oui, c'est le seul livre qu'il y a en italien sur les communautés de Castille.
Il faut
le dire, oui. C'est un livre un peu bizarre parce que c'est écrit en espagnol, mais publié seulement en italien par un traducteur, je ne sais pas, et c'est Máximo Díaz Hernando qui a publié beaucoup sur les comunidades. Bon, nous commençons un petit peu avec la communication. Ville, église et bien commun. Le concept de religion civique ou civile se développe dans son polémique dans les études historiques des dernières années. À partir de ce concept de l'Antiquité, la recherche sur la religion dans le monde urbain du Moyen-Âge et de la Renaissance s'accroissent. Dans ce cadre, la religion sert à générer une identité urbaine associée le plus souvent par l'historiographie à l'idée de nation du monde contemporain. Des processions, les cultes saints, les reliques seraient fondamentales pour conserver certaines unités de ville dans une identité commune. Sans analyser toutes les dimensions de ce concept, on peut le considérer pour parler de la participation des fidèles dans leur propre salut, c'est-à-dire l'activité des villes et de la population urbaine et leurs implications sotériologiques, que c'est le mot qui parle de le salut. Ainsi, on peut remarquer la construction de l'idée de bien commun comme exemple des implications sotériologiques du gouvernement au Moyen-Âge et à la Renaissance. Les fondements théologiques et religieux du pouvoir des rois leur donnent un rôle dans le salut de leurs vassaux. Le bien commun était responsabilité du roi, selon beaucoup de théoriciens du pouvoir monarchique, et il incluait protéger l'Église, garantir la sécurité des pèlerinages et enfin collaborer pour le salut de la population de son royaume. Du coup, son rôle dans la fondation des églises et des monastères est l'aide de la diffusion de la parole de Dieu. En plus, le combat contre les ennemis de la foi, si nécessaire. Cependant, l'idée du bien commun pouvait provoquer ainsi la condamnation du roi ou des autorités politiques. Sans l'accompli, il pouvait souffrir des rejets de différents groupes de la société. Bon, en Espagne, le thème des rois catholiques en Espagne peut être un bon exemple de ce sujet. La conquête de Grenade, l'expulsion des Juifs, la réforme ecclésiastique dans les monastères et les ordres religieux essayent de changer le modèle des évêques. Toutes ces actions sont vues dans le but de collaborer au salut de leurs sujets et le bien commun de l'Église. Pour prendre un exemple, en parlant des problèmes de l'Église et de la papauté, les rois catholiques écrivent y que ya sabe que procurar el remedio de esto toca a los príncipes cristianos, a quien más poder dio Dios en la tierra. Bon, en otro ejemplo, dans la glosa española du Regimine Principium de Gilles de Rome, imprimé en 1494, l'auteur Juan García de Castrojeriz remarque la responsabilité du roi pour le bien commun, la nature divine de ce bien commun et l'obligation du roi de faire respecter la foi de Dieu. Bon. De leur côté, les villes, en opposition ou non au reste du pouvoir, doivent protéger les activités religieuses dans leur territoire dans le but de ce qu'on a nommé une sacralisation du bien commun. Les villes bâtissent des églises, organisent des pèlerinages et des processions et combattent les ennemis de la foi. Ainsi, le salut est aussi un phénomène collectif, municipal et communal. De cette manière, l'idée du monopole du clergé sur l'économie du salut doit être énoncée. Des autres acteurs, comme les rois et les villes, ont leur rôle à jouer. Le concept de religion civique ou civile est alors récupéré. On peut écrire, je crois, une histoire des villes et du sacré dans le cadre de l'appropriation par les pouvoirs urbains de la mise en œuvre du salut collectif. On va analyser ces problèmes à partir de l'étude de la dimension ecclésiologique des écrits des comuneros de Castilla de 1520, surtout ceux qui s'occupent de la tâche des évêques et de la boule de croisade. Du coup, on pourra donner une image plus complète de l'Église au XVIe siècle. L'Église était une corporation et un groupe de corporations plus ou moins différenciées dans la société de la Renaissance, en même temps qu'une idée de communauté de salut. Ce double sens va traverser toute la communication. Bon, on peut couvrir quelques éléments sur l'ecclésiologie castillane à la fin du Moyen-Âge. Bon, un peu histoire du Moyen-Âge. Les schismes de la papauté à 1378 et l'apparition postérieure du mouvement conciliaire au 15e siècle provoquent une grande transformation de l'idée d'Église et leur relation avec le pouvoir ecclésiastique et séculier. Pour la défaite du conciliarisme, les successifs papes cèdent du pouvoir au roi sur les églises de chaque royaume. le soutien de monarchie sera fondamental pour la construction du nouvel centralisme papal. Pour soutenir les papes, les rois exigent le contrôle des églises et de leur territoire, avoir une influence sur l'élection des évêques ou l'acquisition d'une partie des rentes ecclésiastiques. Le royaume de Castille connaît cette évolution. Les rois Jean II, ou Juan II et Enrique IV réussissent à renforcer leur contrôle sur les églises, mais ce sont les rois catholiques qui obtiennent des importantes concessions papales. Or, toute cette évolution ne se produit pas sans heurts. Les églises locales et leurs rentes sont un point de discorde permanent entre les rois et les papes. En plus, face à l'historiographie statiste qui montre le pouvoir des rois sur le monde ecclésiastique, des autres historiens mettent l'accent sur l'autonomie des églises locales en face aux rois et contre les papes. Ainsi, dans le contexte d'une église disputée par différents pouvoirs, les villes peuvent être incorporées. En Castille, les cortes du royaume, représentant des villes et des autres pouvoirs, font attention sur les problèmes ecclésiastiques. Grâce aux différents conflits dans un niveau local et leur expression dans les cortes, un autre pouvoir, l'urbain, s'incorpore aux disputes sur l'église et sa définition comme pouvoir territorial et comme communauté de salut. Les déclarations comuneras sont dans cette tradition. Les écrits comuneros parlent de différents sujets. J'ai pris deux sujets en particulier, qui sont le rôle des évêques et la boule des croisades, mais il y a des autres comme les ordres religieux ou comme l'Inquisition même. Mais pour cette communication, j'ai pris ces deux pour montrer plus la dimension de l'idée de l'Église. Les évêques sont un sujet essentiel dans la transformation de l'Église à la Renaissance. Les rois et les papes se disputent l'élection des évêques, qui est un élément important dans la construction d'une Église territoriale pour les monarques. Les évêques peuvent être fonctionnaires du roi, ce qui est très utile pour éviter d'agrandir le pouvoir des nobles avec toutes les charges importantes. Un aspect fondamental pour ce qui a été appelé, par exemple, domestication de la noblesse, c'est fondamental d'utiliser des évêques et des membres de l'eau clergé pour quelques charges importantes. Les évêques peuvent aussi supporter la politique de monarchie pour prendre les rentes de l'Église. Cela est un point de critique des réformateurs de l'Église depuis le Moyen-Âge. L'évêque de Cour, qui ne faisait pas son travail et qui n'était pas un bon pasteur. Face à l'évêque fonctionnaire et l'évêque guerrière, très célèbre au moins jusqu'au XVIe siècle, la vision d'un évêque idéal se développe. Ainsi, on remarque le travail pastoral, le rejet du pouvoir temporel des évêques pour autre fin que spirituel, et bien sûr, le rejet du comportement considéré impie. Ces idées seront capitales à l'époque du Concile de Trente. Cependant, l'image des évêques sera disputée, surtout en ce qui concerne l'évêque de Cour. Le monde castillan et les écrits comuneros ne sont pas étrangers à ces idées. L'appelée réforme ecclésiastique des rois catholiques insiste sur l'élection des évêques et leur capacité pour la tâche pastorale. Cependant, jusqu'après le Concile de Trente, les plaintes sur le comportement des évêques seront très répandues. Le cas des comuneros est présent dans les écrits ou chapitres qu'ils écrivent. Dans le cas comuneros, ce problème est présent dans les écrits ou les chapitres qu'ils s'écrivent pour demander au roi. Ces chapitres s'occupent de tous les problèmes du royaume. L'importation de textiles, la sortie de l'or, de la plate à l'étranger, le pouvoir royal, les impôts, les peuples de l'Amérique et en plus l'Église. Parmi ceux qu'ils considèrent sur les affaires ecclésiastiques, l'image des évêques occupe une place importante parce qu'elle sert pour toucher divers sujets du gouvernement du royaume et du gouvernement spirituel. D'abord, les comuneros exigent la résidence des évêques dans leur diocèse. Ils ne doivent pas vivre dans la cour royale et surtout, pour le cas de l'archevêque de Grenade, vit récemment conquis. Alors, voici un chapitre, lo leo en castellano. Se deben proveer que los obispos residan en sus obispados y que no anden en la corte ni estén fuera de sus obispados, especialmente todos los del reino de Granada, pues hay tanta necesidad que estén con ellos. Ce sont les chapitres de la ville de Valladolid, parce que chaque ville comunera a écrit chapitres où il se demande différentes choses. Voici le Valladolid. Cette situation, l'absence des évêques, provoquait les sorties de ressources économiques des diocèses où les évêques étaient absents. Alors il y a une relation entre l'absence des évêques et les sorties de ressources économiques de la ville ou de la diocèse. Bon, un autre, je ne sais pas si je sigo leyendo. Sí. Porque es muy notorio el daño que estos reinos, que en estos reinos hay, y por estar ausentes los prelados de sus diócesis. Y aún los que se han de ordenar hacen muchos gastos y expensas y reciben muchos daños y fatigas que su majestad mande proveer que los tales prelados residan en sus diócesis y cuando por necesidad hubiere de ir a alguna parte de él en ellos, pues pueden otros en su lugar que lo tal pueden hacer. O así se la cité de la ville de Burgos. Bon. Cette attitude avait, comme on peut voir, sérieuses conséquences pour l'office divin. Le roi, et si le roi n'intervient pas, ce sont les villes qui peuvent agir. Bon, c'est un peu loin, mais bon. Que los arzobispados y obispos prelados de estos reinos residan en sus diócesis la mayor parte del año y que no lo han haciendo pierdan por rata sus frutos. Esto perde, se prorata, sean con sablatán, se. Comme la proportion, si tu n'étais pas pour deux mois dans la ville, tu dois perdre les ressources de deux mois pour n'être là. Oui? Bon. Et que Su Alteza envie por bula su santidad para ello dentro de un año a estos reinos. Et que si en el dicho término Su Alteza no lo enviare, que el reino tenga facultad de lo haber de nuestro muy santo padre y tomar por su autoridad de los frutos que las dignidades de lo que ellos se desprendieron en haberla dicha bula a costa de ello. Bon, ce que je vais prendre ici, c'est que si le roi ne demande pas la résidence des évêques, les villes peuvent le demander au pape. Alors, bon, un autre que c'est la même chose. Vous pouvez lire si tu veux pour être très loin. Et bon. L'historien José Manuel Nieto Soria étudie les demandes concernant l'absence des évêques dans les cortes médiévales de Castille. Les réclames concernaient la sortie de l'argent des villes à cause de l'absence de son évêque. Or, on peut voir que l'analyse des comuneros est intégrale. Des problèmes économiques, politiques et spirituels. Ils sont tous autour de l'absence des évêques. L'idéal du bonus pastor et l'obligation de résidence ont aussi des implications pour les liens de l'Église dans la société. Un évêque sans une disposition totale des biens de son diocèse n'est pas le même évêque et une corporation ecclésiastique sans les évêques qui disposent de manière totale de leurs biens n'est pas la même corporation. Les réclamations communeras sont alors au cœur de l'évolution sociale et économique de l'Occident chrétien. En plus, demander que les évêques ne soient pas dans la cour du roi attaquait une alliance fondamentale pour la construction de monarchies centralisées, le rôle des évêques comme fonctionnaires privilégiés des rois. Donc, la tâche de la cour animarum, c'est-à-dire que les évêques vivent dans leur diocèse et s'occupent de ce travail spirituel est un argument religieux ou pastoral, mais qui a aussi des conséquences politiques et sociales. Enfin, ces arguments soulignent aussi l'importance de l'Église au niveau local. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les numinés, ou les sacrés, si vous voulez, étaient localisés. Les fidèles cherchaient les sacrés dans leur territoire avec des ermites, des saints locaux, des reliques et les bâtiments sacrés. Les prétentions communeras en renforçant l'Église locale pour la présence de son évêque sont ici dans un contexte plus grand. Les évêques dans leur diocèse représentaient la dignification de la ville pour la présence de son prélat. Le bon comportement du prélat pouvait inspirer toute la ville dans la vie chrétienne et y approcher les sacrés. Par conséquent, il y a une relation permise par la présence des évêques, l'image du sacré et les lieux de l'Église dans la ville. Bon, une minute. Deuxième partie, c'est la boule de croisade et les problèmes du salut. La boule de croisade était un permis papal donné en Castille, mais aussi dans le reste du royaume espagnol, et il y a des autres types de boules dans toute la chrétienté, pour échanger des indulgences, des grâces et des autres privilèges pour une quantité fixe et petite d'argent. Il devait servir à la guerre contre les infidèles et notamment pour organiser la Reconquista au Moyen Âge. C'était le roi qui faisait la prédication et le recouvrement, même si beaucoup de fois il pouvait être cédé aux particuliers en échange d'avance d'argent pour la monarchie. Pour le 16e siècle, c'est le système habituel. Le roi cède la prédication de la croisade et reçoit en quantité en avance d'argent. La ville de croisade était une ressource religieuse, militaire, économique et fiscale. Au XVIe siècle, l'argent donné pour la croisade n'est pas la guerre contre les musulmans comme destin, mais les dépenses régulières de la monarchie, ce qui provoque un nombre important de réclamations plutôt chez des mouvements et des individus considérés hétérodoxes comme les judaïsantes, les erasmistes et los alumbrados aussi. C'est pour cela que sera un peu rare les trouver dans les chapitres comuneros. Un peu rare, pas très rare, mais un peu. Un autre point important pour ce qui concerne la ville et les comuneros est son rapport avec la réforme ecclésiastique. Les rois catholiques ont fait beaucoup pour changer la situation de l'Église en Espagne, surtout pour combattre les abus du clergé et son mauvais comportement. Cependant, peut-être grâce aux ressources économiques et la boule donnée, il n'y avait pas aucun espace de critique sur elle dans les discours ecclésiastiques de la monarchie. La position des comuneros n'a pas donc continuité avec des politiques des rois catholiques et leurs réformes ecclésiastiques. En ce sujet en particulier, le système initial de la boule de croisade était similaire à une indulgence. Les fidèles qui ne pouvaient pas combattre les musulmans en personne et qui payaient en quantité d'argent pour recevoir des bénéfices comme le pardon d'une peine ecclésiastique. Au XVIe siècle, elle s'utilise pour éviter la confession avec les curés de la paroisse. Si quelqu'un n'aime pas les curés de son paroisse, grâce à la boule, il peut se confesser à un autre prêtre. En même temps, le fidèle peut être dispensé de l'interdiction de manger certains repas dans les différents moments du calendrier, comme de la viande ou des œufs. La boule est donc un élément très populaire pour ses bénéfices. Et 2 millions de boules sont vendues. Cette méthode est parfois combattue par la papauté et par des autres pouvoirs ecclésiastiques européens en provoquant des débats comme lors du Concile de Trente. En particulier, c'est la délégation française qui s'oppose dans le Concile de Trente à la boule de croisade espagnole. Dans ce cadre, dans la documentation de la révolte comunera, on trouve deux aspects. D'abord, le recouvrement de la boule est un objet de dispute pendant la révolte. D'après des témoignages de beaucoup de sources, le combat entre les comuneros et les royalistes est aussi autour des ressources économiques, parmi eux l'argent provenant de la ville des croisades. Par ailleurs, la ville des croisades est présente dans les écrits comuneros. Les écrits comuneros sont divers et quelques-uns sont écrits par une ville, ce que j'ai déjà dit, par une ville en particulier, et des autres sont écrits par toutes les villes rebelles. On y remarque les problèmes religieux à cause de la boule. Les fidèles ne sont pas sous le contrôle des paroisses. Les prêcheurs de la croisade trompent. Les fidèles sont obligés à l'acheter. L'argent n'est pas utilisé pour combattre des infidèles. Ah bon, ici un exemple. Que se modere este desacato a la sangre de Cristo con tanta multitud de bulas y tanta falsedad en los hechacuervos, predicadores, sed nom hechacuervos, se le nom pour les gens qui prédiquent la bula. Predicadores y la vejación con que a los pueblos se hace. Así, en detenerlos en los lugares que no vayan a sus labores, como en comprenderlos indirectamente que tomen las bulas modernas, suspendiéndoles las viejas. Lo cual, aunque el Papa lo pueda hacer, parece injusto, pues dieron sus dos reales. Dos reales, c'était le prix de la bulle. Alors, dos reales pour les pauvres et quatre pour les riches. Bueno, otro ejemplo, que en gran escándalo, no solo la causa pía en que se debe expandir la moneda de la cruzada muchas veces es dudosa u oculta al pueblo, mas es pública voz y fama que los dineros sabidos de la cruzada quedan de merced a gente extranjera o fuera del propósito, que las pías causas e infinitos males de esto suceden o son públicos, como es dispensar con comunidades en cosas que, aunque sean de jure positivo, se debían dispensar con particulares, como en carne y en huevos. Y si se sujete la viande, el SF que yo dije. En plus, ce sont les villes qui vont faire intervention pour contrôler cette situation si le roi ne s'agit pas. Voici le même cas qu'avec les évêques. Si le roi ne veut pas intervenir dans la médiation avec le pape, les villes sont autorisées à le faire. Alguna cruzada o indulgencia para se predicar que primeramente se vea la causa en las Cortes Generales, para que allí vista la causa y la necesidad ser tal que convenga al reino, en defensión de la fe y conquista de África. Bueno, pues sí, en otro ejemplo que es similar. Oui. Bon. Enfin, la ville doit être prêchée pour les évêques et les responsables des églises locales. Ce dernier point peut être avoir relation avec l'importance donnée au rôle des évêques lors des comuneros et avec la dimension locale des églises. Parce que vraiment, la boule de croisade, c'était comme une intervention dans le monde de la paroisse et de la diocèse, parce que c'était une autre forme d'accéder à des biens de la salut, on peut dire. Alors c'est toujours, dans ce cas, en défense de l'église locale contre ces interventions que beaucoup de fois c'était une intervention extérieure à la vie de les paroisses et à la vie des évêques, des évêchés, à la vie des évêchés. Bon, ici l'autre cas, se prediquen en las iglesias catedrales y colegiales con los lugares donde las hubiere y se den a los curas y a las tales iglesias para que ellos las divulguen y prediquen a sus parroquianos y que no sean traídos por la fuerza. Voici les choses que je viens de dire. Bon, la historiographie sur les communautés souligne la concordance entre la pensée comunera et l'opinion populaire. En revanche, les études sur la boule de croisade montrent que la boule de croisade était très populaire, alors ce que les communeurs disent est contre un système en général accepté par le peuple castillan et qui sert à son objectif de la monarchie. Malgré les critiques, la boule est donnée par l'église espagnole, soutenue par les rois dans le but de promouvoir les saluts des fidèles. La boule de croisade est l'objet le plus imprimé en Castille et une ressource économique et religieuse fondamentale pour la monarchie et les fidèles, mais elle n'a pas le support des écrits de la révolte la plus importante de l'état moderne en Castille. Bon, et pour finir, c'est un peu court, je ne sais pas. Oui. Si on doit faire une image de l'Église à partir de ce que l'on travaillait ici, on peut dire que l'Église est une institution disputée. Les récits qui parlent d'un contrôle de l'Église pour la monarchie ou pour le patronat royal atteint sa limite face à la diversité politique et religieuse du monde castillan. À la lutte entre pape, roi, pouvoir ecclésiastique et pouvoir seigneurial pour le contrôle de l'Église, doit être ajoutée l'intervention des villes pour le contrôle et l'organisation de l'Église de chaque ville. Le salut était un phénomène collectif qui incluait la famille, les villages, la communauté, la ville et finalement les royaumes. Donc, les propositions communeras ne sont pas simplement l'arrêt des abus faits par les clergés, mais d'autres formes de mettre en relation les fidèles avec leurs pasteurs et le changement des éléments que, à moins en Espagne, l'Église met en jeu pour l'économie de les saluts. Le conciliarisme et les transformations ecclésiologiques entre la fin du Moyen-Âge et la rénovation catholique en Europe peuvent avoir un rapport avec ce qu'on vient d'évoquer, notamment pour l'importance donnée à l'Église locale. La participation des villes a été fondamentale pour le développement et l'instauration de la réforme, ce qui a souligné l'idée de réforme communal dans l'historiographie allemande. Sans avoir un rapport avec les idées réformées, les propositions communeras d'une église avec une force locale importante, au-delà du contrôle royal et papal immédiat, serait un autre exemple de destruction de la chrétienté médiévale sans sortir d'un univers catholique. À partir des écrits communeros, on peut récupérer une image extra-ecclésiale de l'Église. Les études sur l'idée de l'Église médiévale comme institution totale du Moyen-Âge ont fait beaucoup pour remarquer l'importance de l'incorporation de l'Église et sa représentation pour l'analyse de la société médiévale et dans quelques cas jusqu'à temps moderne. Par contre, au XVIe siècle, cette institution totale, si elle a quelquefois existé, se trouve traversée et prisée par de multiples pouvoirs et traditions. D'après ce que les communeros écrivent, l'Église est prise par différentes forces où il y a des autres pouvoirs qui s'approprient de ses ressources symboliques, institutionnelles et politiques, dans ce que l'on appelle des transferts de sacralité entre l'Église et le reste des pouvoirs. C'est pour cela que même s'il y a vécu des prêtres et des moines parmi les rebelles, surtout des intellectuels de la révolte, les écrits communeros autour de l'Église n'ont pas un point de vue clérical des problèmes, au moins en regardant l'Église comme une corporation unifiée. Du coup, on peut proposer un imaginaire urbain d'inquiétude pour ce qui concerne l'Église, quels sont les éléments qu'elle offre aux fidèles pour le salut et les relations qu'elle a avec les pouvoirs séculiers, principalement avec le pouvoir royal. L'écrivain Juan Bernal Díaz de Luco, plus tard évêque de Calahorra, fait vers 1522 une déclaration dans son livre Instruction para prelados o memorial breve de algunas cosas que deben hacer para el descargo de sus conciencias y buena gobernación de sus obispados y diócesis, publié en 1530, dans lequel il souligne l'importance de moutons, je crois que c'est le mot, de s'occuper d'eux-mêmes en matière spirituelle quand leur pasteur n'est pas bon. Parce que tous sont... Non, les moutons, voilà, les ovejas spirituelles. Voilà. Oui, non, mais c'est pour répéter la métaphore qu'il utilise. Parce que tous sont la lumière de la... Parce que... Ah oui, ah bon. Parce que tous sont la lumière de la compréhension et ils peuvent s'aider les unes aux autres. Bueno, voilà le texte. Pues aunque las ovejas hayan de esperar principalmente la guarda y defensa de sus pastores, Dios les ha dado lumbre de entendimiento de la misma natura y calidad que a ellos. Deben, usando de ella, ayudarse unas a otras para que el descuido de sus velas y caudillos espirituales sea menos dañoso, rogando a Dios que alumbre a los que lo rigen, quitando de sí los vicios y pecados, porque los males muchas veces envía a Dios negligentes, porque los cuales muchas veces envía a Dios negligentes y malos gobernadores. Y allende de esto, no solo deben ayudarse entre sí, pero aún los que de ellos tienen alguna suficiencia y espíritu, deben con toda humildad y reverencia representar a sus prelados la necesidad que hay en estos tiempos, que tengan en sus oficios la solicitud que deben. Ça écrit, bon, l'année, no, c'est publié en 1530, mais écrit en 22. Alors, l'année suivante de la défaite communaire en Villalar, la préoccupation des laïcs pour leur propre salut, au-delà de la capacité ou non de leur pasteur, est présente dans la littérature pastorale à Salamanque, ville communaire. Dans un sens similaire, à un moment que l'historien de Ségovie, Diego de Colmenares, au XVIIe siècle, c'est un historien qui fait l'histoire de Ségovie et qui fait un récit aussi de la révolte communaire à Ségovie. Il s'occupe d'un combat dans la cathédrale de la ville quand ses prêtres veulent arrêter la détérioration du bâtiment sacré. Dans ce contexte, les comuneros, d'après Colmenares, répondent que l'église était de la ville et ils ignorent la mise en garde des membres du clergé. Ils disent que l'église est de la ciudad y, entonces, alors ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Voulaient, oui. Bon. À partir de ces commentaires, on peut finir ce parcours par ce que l'on peut appeler une ecclésiologie communaire. La représentation de l'Église est complexe et divers acteurs interviennent sur elle, pas seulement d'une manière pratique, grâce au développement de la politique réelle, mais aussi grâce aux idées et aux représentations qui concernent le bien commun et la dimension collective du salut. Gouverneur, le royaume était aussi s'occuper de l'église et dans un conflit entre ville et roi pour le gouvernement du royaume, on trouve des discussions sur le gouvernement de l'église. Enfin, les communautés de Castille sont incorporés ou peuvent être incorporés à l'histoire des discussions ecclésiologiques d'Occident entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Face à Paul papal et royal autour de l'Église, on peut ajouter celui des pouvoirs urbains. Merci.